Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle évolution.
Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la MAIF, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la MAIF met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société.
Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue pour ce troisième et dernier jour en maîtrise de web radio podcast EdTech France. Nous sommes toujours en direct de l'espace territoire apprenant de la Banque des Territoires sur le salon Educatech Educatis pour une journée de talk en live qui s'annonce encore passionnante avec les acteurs du numérique éducatif et de l'innovation. Associations, instituteurs, professeurs, entrepreneurs, chercheurs, ils vont se succéder sur ce plateau pour partager leurs initiatives, leurs innovations. C'est dur à dire, hein, dernier jour, leurs innovations et leur vision du monde éducatif. Vous nous suivez en live stream sur les sites web et réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MAIF, la MGEN et sur edtechfrance.fr. Trois hashtags magiques pour interagir avec nous, hashtag EdTech, hashtag Educatectis, hashtag territoire apprenant, terre apprenant. Aujourd'hui, ce matin, on va s'intéresser au bien-être des enseignants et des équipes pédagogiques. Comment leur permettre d'échanger entre eux, de partager en dehors de la salle des profs? Est-ce que ça doit être sur les réseaux sociaux? Là, on est beaucoup dans le jugement et ça manque franchement de convivialité. Mon invité du jour propose une alternative qui permet aussi de lier les pratiques de terrain et les travaux de recherche. Bonjour Florence Rizzo.
Bonjour.
Alors Florence, vous êtes cofondatrice et co-directrice de SYNLAB, S-Y-N-L-A-B. En un mot, qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir créé cette structure?
Alors, SYNLAB est une association d'intérêt général que j'ai créée en 2012 avec pour objectif de contribuer à faire le lien, disons, entre le monde de la recherche et le monde des professionnels de l'éducation, et en partant du constat que, alors en France, un enfant issu de milieux défavorisés a 4 fois moins de chances de faire partie des bons élèves. Et par ailleurs, les enseignants sont 2 à 4 fois moins formés que dans les pays de l'OCDE qui réussissent bien. Donc on se retrouve finalement avec une vraie difficulté en France d'accompagnement des enseignants et notamment des jeunes enseignants qui en début de carrière sont souvent affectés en éducation prioritaire, donc dans des territoires extrêmement problématiques. Et donc l'idée, c'est depuis le démarrage d'accompagner les professionnels de l'éducation en se disant que c'est eux qui, au quotidien, font la réalité du système éducatif pour les enfants, et que si on les accompagne eux, on peut vraiment transformer l'éducation. Donc SYN en grec, ça veut dire avec, et depuis le début, l'enjeu, c'est vraiment de faire avec les acteurs, en se disant que ce sont eux qui, au quotidien, peuvent vraiment transformer les choses. Donc on n'est pas forcément dans l'attente de la énième réforme, parce que voilà, des réformes, il y en a beaucoup, souvent, avec des changements de gouvernement, des changements de ministres. Donc certaines peuvent être très intéressantes, c'est pas le sujet, mais le terrain est un peu, je pense, fatigué de la succession des réformes. 4 réformes des rythmes scolaires en 10 ans. Et le CDE montre bien que cette succession des réformes empêche finalement une vraie transformation des pratiques sur le terrain. Donc nous, on a vraiment une vision du changement qui part de la base, en se disant que c'est vraiment avec ces enseignants qu'on arrivera sur le long terme à transformer les pratiques, parce que l'éducation, c'est du temps long. Et donc, si on veut vraiment sincèrement accompagner la transformation, c'est sur le terrain, à bas bruit et sur le long terme qu'on y arrivera.
Et à titre personnel, pourquoi cette initiative, pourquoi cette démarche, cette envie d'avoir un impact, cette envie d'accompagner la transition éducative et puis surtout d'aider les professeurs et les enseignants? Qu'est-ce qui, dans votre parcours personnel, peut-être, a déclenché cette envie?
Alors, moi, je viens d'une famille où mes parents ont pas le bac. Je viens d'une zone rurale, en fait, de l'est de la France. Famille du côté de mon père, immigrés italiens qui ont. qui ont grandi plutôt dans un coron. Et avec toujours cette idée, quand même, que l'éducation, c'était une manière de grandir et d'avoir une certaine ascension sociale. Donc, c'est une famille qui a beaucoup cru dans l'éducation publique notamment et qui m'a permis de faire pas mal d'études. Donc j'étais plutôt bonne élève, j'ai suivi ce qu'on appelle des parcours type grandes écoles, Sciences Po ESSEC, un complément à l'INSEAD. Mais avec le sentiment sur les bancs de ces grandes écoles que je voyais ce que Bourdieu disait, c'est-à-dire la reproduction des inégalités. C'est-à-dire que les jeunes qui étaient sur les bancs de ces grandes écoles étaient majoritairement issus de milieux.
Ils se connaissaient parfois depuis la maternelle en réalité.
Exactement, et c'est ce que Bernard Lahir a montré dans son dernier livre Enfance de classe, c'est que finalement il y a une vraie reproduction des inégalités sociales et scolaires en France qui est dramatique et qui a été à la source de mon engagement pour l'éducation. Et par ailleurs j'ai eu des expériences en tant qu'enseignante à l'étranger ou en France, jamais dans l'éducation nationale, mais avec toujours en tout cas un immense respect pour cette profession qui me semble absolument déterminante pour accompagner les jeunes générations à grandir et à s'insérer socialement et professionnellement.
Oui, parce qu'un parcours Sciences Po, ESSEC, etc., vous pourriez être en banque d'affaires là en réalité.
Ouais, mais c'est un vrai choix.
Ouais.
C'est un vrai choix, et je pense qu'à un moment donné, quand on se questionne sur le sens de son action, je me sens plus justement à ma place ici qu'en banque d'affaires. Et j'avais envie fermement de contribuer à une transformation positive de la société. Et l'éducation me semble à la racine de tout changement social. C'est-à-dire que si on veut contribuer à ce que la société aille mieux demain, il me semble que si on réduit les inégalités et qu'on travaille dès l'école, on est plutôt dans une logique préventive que curative.
Il y a une envie de rendre aussi peut-être, de rendre à l'école ce que l'école vous a apporté.
Oui, il y a un peu de ça aussi, clairement, parce que j'ai eu de la chance, en fait, dans cette histoire-là, d'être plutôt bonne élève et de réussir à comprendre, en fait, les codes du système scolaire et à m'y insérer relativement bien. Donc, et quand je vois, effectivement, l'évolution des statistiques qui fait qu'aujourd'hui, finalement, les enfants issus de milieux défavorisés ont presque moins de chances qu'avant de faire partie des bons élèves, forcément, ça me touche.
D'accord. Et alors, SYNLAB, concrètement, je suis enseignant, qu'est-ce que je vais trouver avec SYNLAB ?
Alors, on a développé une plateforme qui s'appelle êtreprof.fr avec des enseignants. On a beaucoup travaillé, on travaille vraiment avec les communautés. Et ça, c'est hyper important dans l'ADN et la genèse, disons, d'êtreprof. C'est porté avec et pour les communautés enseignantes. Et donc, être prof aujourd'hui, c'est 350 000 enseignants qui reviennent sur la plateforme. C'est à peu près 100 000 enseignants par mois. Et du premier degré et du second degré. Ouais. Donc, on est sur le SCO de la maternelle au lycée. Et avec plutôt des contenus qui s'adressent à eux sur les questions pédagogiques, d'accompagnement d'élèves à besoins spécifiques, de relations avec les parents, relations avec l'écosystème. Donc tout ce qui est un petit peu à côté de la pure didactique des disciplines, mais qui fait le cœur du métier d'enseignant. Et donc la majorité des enseignants qui sont sur cette plateforme sont plutôt des enseignants en première partie de carrière, qui ont entre 25 et 40 ans, qui sont dans leur 15 premières années et qui trouvent chez être prof à la fois donc des ressources mais aussi des temps d'échange entre pairs qui leur permettent de se rassurer sur leur pratique, de s'inspirer grâce aux pratiques des autres et de trouver des moments de dialogue, de réflexivité aussi sur leur pratique. Donc on fait beaucoup de live sur Facebook à 21h le soir, qui est un moment où souvent les enseignants préparent leur cours du lendemain et ont un peu plus de temps et de bande passante. les mercredis après-midi, parfois les samedis matins. Enfin, donc voilà, on est sur des temps qui sont les moments où ils ont un peu de disponibilité, et en essayant d'avoir des formats un peu différents, de libre antenne aussi, qui leur permettent de venir avec leurs questions, pour se développer professionnellement à partir de leurs questions. Okay. Et en ayant un ADN très fort sur la possibilité d'avoir la capacité de dire ce qui va, ce qui ne va pas, d'oser parler de ses erreurs, parce qu'on considère qu'un vrai développement professionnel s'ancre aussi dans une capacité à dire ce qu'on ne sait pas faire, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir la honte de ne pas y arriver. Et que ça, c'est, ça suppose en fait de travailler sur un ton, sur une convivialité, sur une dynamique de confiance, d'accueil, y compris des difficultés.
C'est le bouche-à-oreille qui fait qu'il y a autant d'enseignants qui viennent sur la plateforme, ou il y a une communication spécifique à l'égard de ces communautés éducatives ? Comment ça se passe ?
Alors, ça fonctionne beaucoup avec Facebook. Il y a beaucoup il y a beaucoup de groupes Facebook très actifs, on va dire. Donc, on est encore très dépendant de Facebook. Et beaucoup par le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux. Mmh. C'est vraiment ça qui a fait la notoriété d'être prof. Et être prof est donc vraiment un petit peu entre les plateformes institutionnelles qui vont apporter des contenus de grande qualité et toute la blogosphère, la twittosphère, enfin les réseaux sociaux, où il va y avoir de la convivialité, mais pas forcément toujours le sérieux de la ressource.
Et est-ce que vous arrivez à avoir des anciens qui ne sont pas précisément sur la blogosphère ou sur Twitter ? Parce que c'est peut-être ceux-là qui sont les plus difficiles à sensibiliser, ou en tout cas à toucher ?
Alors, comme les enseignants sont plutôt majoritairement des jeunes, donc qui ont entre 25 et 40 ans, ils sont quand même plutôt assez numériques. Ils passent en moyenne 6 heures par semaine sur Internet, à chercher des ressources. Donc, globalement, le cœur des gens auxquels on s'adresse sont vraiment sur Internet. Par contre, on ne s'adresse pas forcément qu'aux plus innovants. Le but, c'est de travailler plutôt avec les jeunes qui, en début de carrière, ont besoin de renforcement et d'accompagnement. Ces gens-là sont sur tous les territoires et voilà.
Et vous diriez qu'être prof aujourd'hui, c'est plus difficile qu'être prof hier ou pas, ou simplement les questions sont différentes ?
Ben, je pense que, ce que les profs de notre communauté disent, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'attentes vis-à-vis de ce métier-là, et en même temps, la société a beaucoup bougé. Les parents sont aussi plus éduqués. Donc, il y a un niveau d'attente en fait, qui a augmenté, et je pense un niveau de complexité dans l'exercice du métier, parce qu'il y a énormément de demandes en fait, vis-à-vis de ces enseignants, de à la fois faire les programmes scolaires, de développer les savoir-être, d'éduquer à la paix, au développement durable.
Et parfois d'être assistant social aussi, c'est aussi ça, être enseignant. C'est être au contact notamment en certaines zones de difficultés qui dépassent le cadre strict de la transmission des savoirs, j'imagine.
Complètement. Et donc, c'est ce métier protéiforme qui en fait sa richesse et en même temps sa complexité. Ouais. Donc, je pense que le mal-être ambiant vient en partie de cette complexité, du manque de confiance qu'il peut y avoir parfois de la part des parents. Et avec aussi une inquiétude vis-à-vis de toutes les stratégies d'évitement qui font que beaucoup de parents de classe moyenne ou aisée peuvent retirer leurs enfants de l'école publique de peur d'une mixité sociale. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète si on projette le modèle éducatif dans les 20 prochaines années. C'est est-ce qu'on va réussir à garder cette école publique de qualité, accessible à tous, qui donne envie à toutes les classes sociales d'envoyer leurs enfants, et que cette école reste le creuset d'une mixité sociale et de l'intégration d'une société, en fait.
Bien sûr. Et parlez-nous du projet Bâtisseur de Possible, justement.
Alors, Bâtisseur de Possible, c'est le premier projet qu'on a porté avec SynLab et qui s'adresse à des enseignants plutôt de l'école primaire. L'idée, c'est de permettre aux enfants de ces écoles de se questionner sur le monde, de s'interroger sur les problèmes qui les touchent. Oui. Donc ça peut être la question des violences dans la cour de l'école, ça peut être des choses modestes à leur hauteur, mais c'est ça
le
qui est important.
Qui est un des sujets aussi
le harcèlement, des questions environnementales, le fait que quand ils font leur chemin vers l'école, de voir des mendiants dans la rue, enfin tout, oui. Tout ce à quoi ils sont exposés en tant qu'enfants. Et l'idée, c'est de les aider à se questionner sur le monde, à approfondir en fait la problématique qui les touche. Et ensuite, dans une deuxième étape, de leur permettre d'inventer des solutions, oui. Et de ne pas rester dans le monde des idées, mais de faire. Donc c'est la troisième étape, c'est réaliser vraiment cette solution. Et quatrième, c'est de partager pour inspirer d'autres enfants et leur donner envie de se mobiliser, oui. Et d'être des acteurs du changement. Et l'idée, c'est qu'on n'est jamais trop petit pour changer les choses. Oui. Il ne faut pas attendre que les adultes, le système ou je ne sais pas qui transforment les choses. Donc le but, ce n'est pas de surresponsabiliser les enfants, oui. Ou de leur faire peser un poids qui est trop lourd pour eux, mais plutôt de leur donner le goût de se questionner sur le monde et de se dire qu'ils sont en capacité de trouver, oui. Des solutions et de réaliser ces solutions. Et aujourd'hui, Bâtisseurs, donc, c'est des milliers d'enfants à travers la France, mais, oui. Aussi à travers le monde, puisqu'on est en lien avec un réseau mondial qui s'appelle Design for Change. Oui. Et c'est 25 millions d'enfants dans 35 pays qui trouvent des solutions au service de l'intérêt général. Et là, on est en train d'adapter le projet pour les lycées professionnels.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, en France, c'est 700 000 lycéens qui sont parfois perçus, mal perçus. Mmh. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ce programme en fait, pour développer des compétences particulières, mmh. De confiance en soi, de créativité, de capacité à coopérer, à prendre des initiatives. Donc, voilà.
Et l'une des particularités de SynLab dans ce projet comme dans les autres, c'est ce lien avec la recherche, notamment. Mmh. Alors, comment est-ce qu'on crée cet aller-retour entre la recherche et le terrain?
Alors, souvent, on a tendance à vouloir faire la recherche d'un côté et éventuellement ensuite vulgariser. Je pense que c'est intéressant. Il faut réfléchir à des formats, oui. de médiation, de vulgarisation, d'accessibilité. Mais ça doit s'ancrer aussi dans un questionnement des besoins des enseignants et des personnes auxquelles, oui. on s'adresse. Donc nous, on est très attentifs à comprendre d'abord quelles sont les problématiques terrain. Donc par exemple, je cite souvent cet exemple-là, mais les enseignants vont dire « moi, j'ai un problème de bavardage dans ma classe, oui. et les chercheurs ont parlé de mécanismes attentionnels. » Et donc il y a une question à la fois de compréhension fine du besoin, d'aller chercher la ressource validée côté recherche, oui. et de l'amener de manière compréhensible et accessible dans le langage et la réalité de terrain des enseignants. Et donc c'est ce travail d'aller-retour qui est extrêmement fertile. Et qu'on essaye de porter au quotidien. D'accord. Donc d'avoir une rigueur scientifique, mais qui est vraiment au service des besoins du terrain.
Donc s'il y a des bavardages, je ne punis pas. J'essaie d'abord de comprendre pourquoi il y a des bavardages.
Voilà, pourquoi effectivement il y a un manque d'attention. Ouais. Est-ce que, quel type d'attention on peut travailler, une attention dirigée oui. Et derrière, l'objectif, c'est d'outiller. Donc c'est-à-dire d'aider à comprendre, mais aussi d'outiller, ouais. pour que les pratiques évoluent.
Alors le numérique dans tout ça, évidemment, joue un rôle crucial. D'abord parce que SynLab, c'est des sites internet aussi d'accompagnement, on l'a dit. Donc le numérique comme un outil pour créer ce lien et le faire vivre. Le numérique, c'est peut-être aussi ce qui peut creuser la fracture entre des territoires ou entre des enfants qui n'ont pas accès ou même au même savoir. Comment est-ce que vous vous accommodez du numérique? Est-ce que c'est une cause, une conséquence? Est-ce que c'est une réponse? C'est une question?
Pour nous, le numérique n'est qu'un outil. Enfin, ouais. C'est pas du tout. Enfin, pour nous, la techno n'est pas première. C'est l'humain qui est premier. Et la techno, elle est juste là pour faciliter les rencontres humaines, la bonne connexion entre deux individus qui peuvent être tuteurs, tutorés, mentors, mentorés. Ouais. Pour nous, le numérique est un facilitateur de rencontres humaines. Et d'ailleurs, quand on a des temps d'échange entre pairs qui sont donc numériques mais synchrones, on a des retours qualitatifs qui sont proches des retours qu'on pourrait avoir dans une formation présentielle. C'est-à-dire, on a pris ma question, on a répondu à mon besoin, ça m'a rassuré, ça m'a aidé à prendre les choses différemment avec un peu de recul. Là, je trouve que c'est intéressant parce que ce numérique humain synchrone permet de relier les gens plutôt que de les éloigner, en fait. Et l'autre effet qu'on a pu mesurer, c'est que ça permet de toucher des gens qui sont loin des zones de formation. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, l'Île-de-France, il y a une offre pléthorique de formation, d'université, Mais quand on est dans des territoires plus éloignés, en zone rurale, ouais. Dans les territoires d'outre-mer, dans les lycées français de l'étranger, enfin, dès qu'on est un petit peu loin des centres qui sont des centres de recherche et de formation, il y a une appétence encore plus forte, ouais. Pour trouver d'autres voies en fait, pour se former, s'inspirer, ouais. Se relier en fait.
Justement, j'ai découvert avec plaisir que ce diplôme universitaire, acteur de la transition éducative, dont vous êtes co-responsable avec Sophie Penn, qu'on connaît bien avec Tech France. Racontez-moi un peu l'histoire de ce diplôme et qui sont ceux qui suivent ce diplôme et qu'est-ce qu'ils en font après ?
Alors, à force de travailler avec les enseignants, on s'est rendu compte que pour réussir à accompagner la transformation du système, il fallait aussi travailler avec les cadres, avec tout l'encadrement, les chefs d'établissement scolaire, les inspecteurs, les IEN, enfin, tous ceux qui sont un petit peu entre la tutelle et le terrain. Et donc le but de ce diplôme universitaire, c'était de créer en fait un pas de côté, ouais. Et de permettre à ces cadres en fait de réfléchir à une transformation systémique et comment ils peuvent être porteurs de projets de transformation en fait. Et donc depuis 3 ans, on a des responsables du ministère, d'académie, oui. Des chefs d'établissement qui viennent chercher d'autres outils pour piloter des transformations du système éducatif sur plein de domaines différents. Ça peut être sur des questions d'orientation, sur des questions de développement de bien-être d'une équipe enseignante dans une circonscription. Enfin, à chaque fois, l'idée, c'est qu'ils se saisissent d'une problématique et ils mettent en place un projet concret qu'ils vont expérimenter et évaluer. Et en fait, ce diplôme-là nous a aussi permis de commencer à travailler avec des cadres. Et ça a donné naissance à 2 MOOC, un MOOC qui a été joué plusieurs fois. Donc 10 000 personnes ont rejoint en fait, ce MOOC, ouais. Accompagner les transitions éducatives.
Qui était disponible sur FunMOOC,
qui était exactement disponible sur Fun, qu'on a fait avec le CRI et l'Université Paris-Descartes. Et en fait, de ces deux expériences-là, l'une très présentielle et l'autre très distancielle, on a développé là et lancé il y a 2 mois une plateforme qui s'appelle Manage Educ.
D'accord.
Et qui vise à accompagner en fait les chefs d'établissement scolaire, ouais. Dans une évolution de leur mode de pilotage. Le constat, c'est qu'il y a énormément de sentiments d'isolement hein, de la part de ces cadres qui sont souvent dans des métiers là aussi en tension hein, avec beaucoup d'exigences là aussi des métiers protéiformes. On a vu tristement le suicide de Christine Renon qui a fait beaucoup, ouais, de remous dans les médias, mais qui est un peu symptomatique de alors même si la problématique des directeurs d'école est un tout petit peu différente, mais globalement des pilotes en fait qui doivent aujourd'hui incarner une politique éducative à l'échelle d'un territoire, oui. Et qui se sentent un peu isolés en fait dans l'exercice de leur métier. Et donc là, l'idée, c'est à la fois de donner des contenus d'inspiration, là aussi beaucoup issus du monde de la recherche, mais aussi l'idée, c'est de mutualiser les pratiques et de permettre à chacun d'être moins seul parce que en capacité de lire et d'être relié à un autre chef d'établissement, oui. Qui a fait quelque chose d'inspirant. Là, en ce moment, on est en pleine réforme du lycée. Oui. La grande question qui va émerger, c'est comment on fait des conseils de classe alors qu'il n'y a plus de classe.
Oui.
Et donc, tout le monde est un peu en train d'essayer de chercher, de bidouiller. Et là, l'idée, c'est d'être dans une logique de mutualisation de pratiques et de s'inspirer des expériences des uns et des autres.
Parce que chef d'établissement ou proviseur, c'est des responsabilités extraordinaires. Enfin, on n'imagine pas la complexité de ce métier, à la fois parce qu'on manage un établissement, une équipe comme une entreprise, d'une certaine manière, même s'il n'y a pas d'enjeu de rentabilité, mais il y a des enjeux financiers aussi. Et puis, on a une responsabilité à l'égard des familles, à l'égard des jeunes. Donc, c'est un métier d'une complexité difficile, quoi.
Oui. Effectivement, alors certains n'aimeraient pas le terme de manager et je pense, enfin, on peut le comprendre, mais si on revient à la racine de ce que ça veut dire, c'est juste qu'effectivement c'est un métier de l'humain, puisqu'un chef d'établissement a accompagné une équipe pédagogique, oui. Composée à la fois d'enseignants et de personnel non enseignant, et le pilote en lien avec toute la communauté éducative des élèves et des parents, en lien avec les collectivités locales. Donc c'est un métier complexe au sens de ce que Edgar Morin dirait, c'est-à-dire qui relie beaucoup d'acteurs, oui. À une échelle territoriale. Et parfois, l'établissement scolaire, c'est un peu le premier maillon et le premier service public auquel les citoyens ont accès, en fait.
Et est-ce que vous arrivez à mesurer l'efficacité de toutes ces solutions, toutes ces aides que vous apportez via SimLab ?
Oui, alors sur le premier projet Bâtisseur de Possible, on a travaillé sur une mesure du sentiment d'efficacité personnelle, ouais, qui pour nous était, en recherche, on a observé que c'était un déterminant important de la confiance en soi et de la capacité ensuite à se réaliser, à développer ses compétences. Et donc, on a fait toute une mesure avec un groupe test, un groupe contrôle, qui a permis de mesurer l'augmentation du sentiment d'efficacité personnelle, oui, des enfants qui mettaient en place le projet Bâtisseur de Possible, et de mesurer aussi l'augmentation de ce sentiment d'efficacité personnelle en français et en mathématiques. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une transférabilité de ce type de compétences dans les domaines disciplinaires. Mmh. Et sur Être Prof et Manage Educ, alors c'est des projets plus récents puisque Être Prof n'a que 2 ans, oui, et Manage Educ s'est lancé il y a 2 mois. Oui. Mais l'idée, c'est que, évidemment, comme on est sur des plateformes, on a beaucoup de data, donc on voit bien quels sont les usages, la régularité de ces usages, donc on suit toutes ces données. L'objectif, c'est de développer. Alors, on a différents critères sur lesquels on aimerait bien mesurer l'impact, notamment l'augmentation des pratiques collaboratives, puisque l'OCDE a montré en fait l'importance de développer les pratiques collaboratives pour soutenir le développement professionnel des enseignants. Donc ça, c'est une mesure clé, donc l'acceptabilité et l'acceptation de pouvoir aller voir un autre enseignant dans sa classe, recevoir un enseignant dans sa propre classe. Sur la question du sentiment d'efficacité personnelle, même chose, c'est aussi un déterminant de la capacité à se développer tout au long de sa vie professionnelle, donc ça serait un critère. Et puis la capacité aussi à innover, au sens à renouveler ses pratiques, à re-questionner ses pratiques, puisque ça, c'est une manière aussi d'être en capacité de se remettre en question perpétuellement et de se dire que 40 ans de vie professionnelle ne seront évidemment pas linéaires, et que la question, c'est la créativité au sens de la capacité à trouver de nouvelles solutions aux problématiques qui vont émerger dans une carrière professionnelle.
Et est-ce que il existe ou pourrait exister des rencontres physiques aussi que vous pourriez organiser entre ces différents acteurs, chefs d'établissement, professeurs qui ont envie d'échanger aussi, pas simplement au travers de l'outil numérique, mais autour d'un verre ou dans un atelier, choses qui se font.
Alors, c'est des choses qu'on a commencé un petit peu à faire, effectivement, permettre aux communautés de se rencontrer localement. Avec Manage Educ, on commence à être sur une idée de clubs locaux. Ouais. Et c'est vraiment, c'est part de la communauté qui avait envie de se rencontrer. Donc, on est en train de tester ça. Probablement des universités aussi qui permettront aux acteurs des communautés de se rencontrer. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura des prolongements présentiels, mais chaque chose en son temps, c'est-à-dire que on ne peut pas tout faire, on reste une structure quand même relativement modeste, et donc il faut compter nos forces pour avoir le plus d'impact possible.
Vous connaissez Cécilia Pinto ?
Non.
Je vais vous la présenter parce qu'elle est juste en face.
D'accord.
Elle est là, elle fait coucou.
Ah bah oui, oui, là, voilà. Oui, oui, bien sûr. Ah. Oui, si.
Et Cécilia, et le réseau est du Voices, et voilà, ces micro-communautés de professeurs qui se rencontrent pour parler de leurs pratiques pédagogiques, notamment autour du numérique, il y a peut-être un lien à faire. C'est ça, EdTech France, c'est des rencontres. Voilà. C'est une structure associative, donc Synlab, il y a combien de permanents aujourd'hui ?
Alors, on est à peu près une quinzaine de permanents. Et avec un deuxième cercle d'une vingtaine de personnes qui interviennent régulièrement en tant que membre du réseau, je dirais, qui passe un temps significatif pour aider à porter les projets, répondre aux lives.
D'un point de vue financier, là, c'est le directeur général d'une autre association qui pose la question. Comment vous faites alors ?
Alors, on a commencé grâce à la philanthropie. Clairement, on a reçu le soutien de grands mécènes, de grandes fondations comme la fondation Bettencourt ou la fondation Alpha Omega, qui nous ont permis de commencer. On a été labellisé France S'engage à une époque. On a été aussi lauréat d'un PIA, Programme d'investissement d'avenir. Donc, un soutien de l'État assez significatif. Oui. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un troisième pied, disons, sur l'idée d'une contribution directe, en fait, des bénéficiaires, donc enseignants ou chefs d'établissement. Donc, le fonctionnement d'Être Prof va être sur un modèle qu'on pourrait appeler freemium, Donc
Freemium, j'explique, c'est gratuit et si on veut aller plus loin, on paye quelque chose.
Il y a quelques services effectivement qui sont en accès abonné. Et en se disant que cet accès abonné peut être soit pris en charge directement par l'enseignant, soit par des partenaires, et ça a été le cas avec la MGEN, qui a été un des premiers, et la CASDEN, qui ont été les premiers partenaires à comprendre l'intérêt en fait de soutenir le développement professionnel des enseignants. Donc voilà, on a un très très, enfin très beau partenariat avec eux, et des académies en fait qui commencent là, elles aussi à se dire que cette offre là peut être complémentaire de ce qu'elles proposent par ailleurs. Et donc voilà, nous on a toujours dans l'ADN de travailler avec et de ne pas faire à la place d'eux ou de ne pas faire si les choses sont déjà bien faites. Donc,
s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui croient au projet, qui ont envie de donner, ils peuvent ou pas?
Ah oui, bien sûr.
C'est pas vraiment une question, c'est un appel.
Bien sûr, c'est un appel, mais oui, comme tout le monde associatif, avec la fin de l'ISF, on a pas mal de... c'est difficile.
Ah, m'en parlez pas, ma pauvre dame.
mais voilà, on continue en tout cas à y croire. Donc si effectivement il y a de généreux donateurs qui nous écoutent...
Donnez à SynLab, donnez à Lab School qu'on a rencontré hier, donnez à EduVoices évidemment, et puis donnez à Tech France. Voilà. Bien sûr. Bien, super. Mais c'était encore une fois passionnant. On est sur le salon Educatech, donc il y a évidemment des enseignants qui nous écoutent, qui nous écouteront demain dans le podcast également, des chefs d'établissement. Voilà, s'ils ne connaissent pas encore être prof et manager éduc, qu'ils aillent se connecter très vite et qu'ils participent à cet échange, parce que l'apprentissage entre pairs, le partage d'expériences, le partage de connaissances, notamment pour les jeunes enseignants, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, j'ai été prof pendant une dizaine d'années, j'ai commencé à l'université, on ne m'a pas donné une heure de formation sur comment tout bêtement poser ma voix. Alors j'ai appris depuis, même si ce matin j'ai un peu la voix de Barry White, mais voilà, il y a aussi des choses très concrètes sur les sites, et puis, puis c'est la façon d'exprimer aussi parfois un mal-être, ou en tout cas de trouver des réponses à des questions qu'on se pose.
Oui, c'est justement effectivement avec la MGEN qu'on a travaillé sur la question de la voix avec une cantatrice qui est très forte en fait sur cette question-là, et effectivement c'est tous ces apports qui peuvent sembler à la marge de la transmission des savoirs, mais qui en fait est une manière d'outiller fondamentalement les enseignants sur des choses essentielles dans l'exercice du métier dans la classe.
La voix, c'est l'instrument de travail. C'est un accordéoniste sans accordéon. Voilà, j'ai envie de parler d'accordéon ce matin. En tout cas, merci beaucoup Florence, c'était passionnant. Je regrette que le chrono me dise de mettre un terme à cette chronique, mais on aura l'occasion de prolonger ces échanges, j'en suis certain. Qualité, mixité, accessibilité à tous, bien-être des enseignants, transition éducative, voilà, tout ça, c'est ce que vous proposez, c'est ce qu'on propose aussi sur la web radio podcast EdTech France qui continue aujourd'hui, toujours en direct, depuis l'espace territoire apprenant de la Banque des Territoires avec nos partenaires, la MGEN dont on vient de parler, et puis la MAIF également. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt.
Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.